Décryptage, Marie Cazadebé.
Les États-Unis ont la solution pour mettre un terme au conflit israélo-palestinien. Cela fait 2 ans que leur plan est annoncé, jamais dévoilé. Et enfin, son premier volet est présenté en ce moment à Manama, à Bahreïn. Mais il ne s'agit que du volet économique. Jusqu'à demain, Jared Kushner, le conseiller diplomatique de Donald Trump, expose ses propositions pour la région. 50 milliards de dollars d'investissements étrangers internationaux sur 10 ans pour les territoires palestiniens et les pays arabes voisins. Mais les Palestiniens boycottent ce rendez-vous, estimant que les États-Unis tente de les acheter. Alors, quelles sont les chances de succès de cette conférence? Comment peut-elle faire progresser la paix? Cette paix peut-elle passer par l'économie avant la politique? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Elisabeth Marteux.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse associée à l'Institut international d'études stratégiques, spécialiste du Proche-Orient. Et bonsoir Jean-Éric Brana.
Bonsoir.
Spécialiste des États-Unis, vous venez de publier chez VA Éditions. Et s'il gagnait encore, je suppose que vous parlez de Donald Trump.
Oui, il semblerait, oui.
Alors, difficile d'évoquer le volet économique du plan de paix américain au Proche-Orient sans évoquer le volet politique, toujours attendu. Un plan présenté par Washington comme l'accord du siècle. Voilà comment Jared Kushner, le gendre et conseiller diplomatique de Donald Trump, en parler en avril dernier.
Nous avons adopté une approche non conventionnelle. Nous avons étudié pourquoi les plans précédents ont échoué. Et si les gens restent figés sur de vieux paradigmes habituels, nous ne ferons jamais de progrès.
Jean-Éric Brana, qu'est-ce que les États-Unis attendent pour dévoiler ce fameux accord du siècle ?
Ah ben ils attendent pas puisqu'il est dévoilé aujourd'hui, donc c'est enfin le premier volet, en tout cas le volet économique.
Mais le volet politique.
Pour le volet politique c'est plus compliqué. Jared Kushner nous a expliqué qu'il fallait qu'il y ait une stabilité en Israël et les élections n'ont pas permis d'apporter cette stabilité. Alors on attend la prochaine élection, enfin la réélection et une fois que le gouvernement sera formé, à ce moment-là, cela permettra de discuter. Alors pourquoi? C'est ça la vraie question. Et en réalité, l'hypothèse la plus évidente, si on écoute et si on dissèque les paroles de Donald Trump depuis qu'il est là et de Jared Kushner en particulier, c'est qu'il y aurait une contrepartie demandée à l'État d'Israël et donc si ce n'est pas Netanyahou, ça va être très embêtant puisque tout a été donné en réalité à Netanyahou et tout a été fait pour le réélire, donc il pourrait appuyer éventuellement un compromis ou une demande du gouvernement américain pour pouvoir donner quelque chose à l'autorité palestinienne et donc faire accepter un plan politique ou en tout cas les faire revenir à la table des négociations. Si c'était un autre Premier ministre, ça devient effectivement plus compliqué, donc ça paraît hasardeux de sortir ce volet politique avant de savoir où en est la situation politique.
Alors ça veut dire que donc le plan politique dépend des résultats des législatives en Israël en septembre. Donald Trump est entré en campagne pour la présidentielle de 2020. Ce dossier, ça peut être une bombe à retardement. Est-ce qu'il ne risque pas de reporter encore un peu le dévoilement de ce plan politique? Ça arrivera à un moment un peu crucial pour lui.
Eh bien écoutez, je ne le crois pas. Je crois même que ça va être le contraire. En réalité, aucun président en réélection n'aurait besoin de ce que vous avez appelé une bombe, et vous avez raison de le dire comme ça, mais on a quand même remarqué que Donald Trump et son entourage font à chaque fois le contraire de ce qui est attendu, en tout cas des codes politiques habituels. C'est le principe du populiste qui voulait renverser la table, qui expliquait que l'establishment avait des codes justement trop serrés qui faisaient qu'on n'avançait pas. C'est encore ce qui est dit d'ailleurs pour ce plan de paix, c'est de dire écoutez, ça n'a jamais marché, on va essayer autre chose. Mmh. Donc il faut accepter de faire un mouvement différent, et je crois que dans le cas très précis du plan de paix dans cette région, c'est d'abord quelque chose que Donald Trump voudrait réussir. Souvenez-vous, le matin même de son élection, quand on a su, la première parole a été pour dire « j'aimerais quand même réaliser la paix dans cette région, ce serait pour moi l'œuvre de ma présidence ».
Elisabeth Marteux, Jared Kushner parle d'une approche non conventionnelle. Qu'est-ce qui se dessine à votre avis dans les couloirs de la Maison-Blanche pour le Proche-Orient?
Alors pour le Proche-Orient, c'est un vaste débat. Hein.
Pour
c'est
le
large,
conflit,
le Proche-Orient.
Bien sûr, pour le conflit israélo-palestinien.
Moi, à mon sens, il y a quelque chose qu'on ne débat pas assez, c'est qu'est-ce que c'est que la paix, quelle paix veulent les Américains. On dit qu'ils veulent présenter un plan de paix. Moi, à mon sens, ce n'est pas un plan de paix conventionnel, ce n'est pas véritablement une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens qui est cherchée aujourd'hui par l'administration américaine. Parce que si c'est ça, effectivement, c'est un échec et on le voit, leur plan économique ne répond pas à cette problématique-là. Et visiblement, ce qu'ils négocient pour leur projet politique ne répond pas non plus à cette problématique d'une paix juste, durable entre Israéliens et Palestiniens. Donc moi, je m'interroge véritablement sur les ambitions de l'administration américaine, si ce ne sont pas plutôt une ambition qui vise à conforter Israël, notamment dans l'avancée de la colonisation, et donc qui ne va pas du tout dans le sens d'une paix juste et durable, mais qui va dans le sens d'un apaisement de la grogne palestinienne, quelque part acheter les Palestiniens par l'économie, voire comme ultime ambition de remplacer le leadership politique à Ramallah pour avoir un leadership beaucoup plus docile, enterrer la solution de deux États et laisser prospérer l'expansion israélienne. Mmh. Ça, à mon sens, ça me semble plus logique dans leur matrice de ce que pourrait être une paix en Israël-Palestine.
Ce qui vous fait dire ça, ce sont les décisions prises par Donald Trump depuis son arrivée à la Maison Blanche, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale, la reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. C'est ça qui vous fait
c'est
dire
ça,
que clairement...
C'est ça, mais pas seulement. Il y a ces grandes décisions-là, il y a aussi la manière dont ils ont discuté du plan politique avec leur alliés du Golfe, avec la Jordanie, avec l'Égypte. On a des échos des discussions qui ont eu lieu. Le fait d'enterrer la solution de deux États, le fait de ne pas vouloir froisser les Israéliens, le fait que rien n'a été discuté avec les Palestiniens, avec le leadership palestinien. À aucun moment, ça n'a été discuté qu'avec les Israéliens. Leur manière aussi d'avancer aujourd'hui avec un plan économique en refusant de parler politique, pas seulement parce que le tempo n'est pas bon à cause de Netanyahou. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Le plan était déjà bancal bien avant que Netanyahou ne réussisse pas à former sa coalition. On l'entendait, c'est-à-dire que les pays du Golfe n'avaient pas donné le feu vert pour la fin de la solution à deux États. Donc il y avait beaucoup de points encore d'achoppement, de tension et de discussion. Ce plan n'était absolument pas clair. Il n'y a pas de feuille de route non plus. Il y avait des idées lancées sur un papier. Donc on verra bien s'ils le sortent, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc c'est tous ces points-là qui me font dire que effectivement c'était mal parti.
On va en revenir donc à cette conférence économique de Manama à Bahreïn. Évidemment que l'absence de plan politique pèse sur ce rendez-vous. Un rendez-vous d'ailleurs qui devait être un sommet international. Il s'est transformé en atelier économique. Les Palestiniens ont décidé de le boycotter, à commencer par Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui dénonce la stratégie des États-Unis.
Nous avons besoin de développer l'économie et nous avons besoin d'argent en effet. Mais avant tout, il doit y avoir une solution politique. Quand il y aura une solution politique, quand la solution à deux États sera mise en place, alors nous dirons au monde, venez, nous avons besoin d'aide.
Jean-Éric Brana, une conférence économique sans les principaux intéressés, est-ce que ça signifie déjà l'échec de cette initiative ?
Je crois qu'il y aura un échec de cette initiative, mais pas parce que les intéressés n'y sont pas. En réalité, je rejoins assez ce qu'a dit Elisabeth, les intéressés n'y sont pas depuis le départ. Ça fait quand même un petit moment que tout ça est mis en place. Rappelons-nous quand même, première sortie de Donald Trump, c'était à Riyad, ce qui était assez surprenant. D'abord, une première visite du président américain, c'est réservé d'habitude au Canada ou au Mexique, on reste chez soi. Là, c'était quand même fondateur. Ensuite, la deuxième visite immédiatement derrière, dans le cadre du même voyage, c'était Jérusalem. Et il y a un pont aérien qui a été créé. À ce moment-là, de Riyad à Jérusalem, c'était jamais arrivé. Donc, il ouvrait un corridor aérien, symboliquement. Mais symboliquement, c'était parce qu'il venait demander aussi au roi de reconnaître Israël. Et qu'il fallait donc pouvoir mettre des liens. Là, il ne s'agissait pas de Palestiniens, hein, on n'en parlait pas. Il s'agissait d'abord de pacifier la région et de rendre les clés de cette région aux acteurs de la région. C'est la technique de Donald Trump. En réalité, les Américains veulent se retirer. Ils ont le contrôle. Hein. Ils restent quand même maîtres à bord du vaisseau, mais le vaisseau, c'est pas eux qui le pilotent, c'est pas eux qui le financent, ils sont plusieurs places. Je crois que le but est là. Donc, dans un premier temps, il fallait sortir des embrouilles picrocolines, on va dire, des petits bouts là qui se mordent de tous les côtés. Et c'est vrai que c'est aussi ça, les gros conflits. Donc, c'était quelque chose qui ennuyait profondément les Américains, en tout cas du point de vue de Donald Trump et de ses équipes. Maintenant, aujourd'hui, dans le plan économique, le fait que les Palestiniens ne soient pas autour de la table, il y en a, il y a des des hommes d'affaires qui sont là quand même. On va le retenir comme ça. D'ailleurs, c'est ce que disaient les Américains. Il y a aussi des hommes d'affaires israéliens. Donc, Jared Kushner va s'adresser à eux en expliquant que ça a été fait pour eux. Vous avez bien dit que c'était plus un sommet, c'était un atelier. Donc, ça permet justement de pouvoir s'adresser à eux et de supplanter le politique, en tout cas de passer par-dessus. Mais évidemment, ça pourra pas aller très loin parce que ça a été très bien dit tout à l'heure. S'il n'y a pas le politique, comment voulez-vous poser quoi que ce soit sur le plan économique? Donc on va être dans les grandes intentions, dans les grandes directions, les grandes lignes, mais on pourra guère aller plus loin.
Alors les grandes lignes, Elisabeth Marteux, c'est un projet estimé à 50 milliards de dollars, ça fait à peu près 43 milliards d'euros, qui prévoit des projets sanitaires, éducatifs, énergétiques, technologiques, touristiques, agricoles, un corridor pour relier la Cisjordanie à la bande de Gaza. Déjà, le contenu de ce plan, qu'est-ce qu'il vous évoque? Est-ce que vraiment ça répond justement à tous les besoins des territoires palestiniens? J'ai l'impression que ça coche toutes les cases.
Oui, ça pourrait cocher toutes les cases. C'est 40 pages où tout est évoqué, pêle-mêle, dans des petits paragraphes de 10 ou 15 lignes pour chaque problématique. Donc pour se rendre compte déjà du document. Et ensuite, il y a des idées qui, à mon sens, sont farfelues. Il y a par exemple la promotion de la culture et du patrimoine palestinien, c'est très très bien, mais qui est totalement hors sol, totalement idyllique. C'est-à-dire on prévoit de faire la promotion de cet artisanat, de ce patrimoine, avec par exemple des circuits touristiques. Il parle d'un un circuit en une fois qui passerait par le Liban. Quiconque connaît la région sait très bien que pour aller de Ramallah à Beyrouth, c'est très compliqué. Hein, c'est Israël qui contrôle les entrées et les sorties des territoires palestiniens et il n'y a pas d'accord de paix avec le Liban, donc on ne peut pas passer. Bon, il y a toutes sortes de mesures comme ça qui paraissent complètement surréalistes et pas adaptées à l'urgence économique. Et ils traitent pêle-mêle de la Cisjordanie et de Gaza, sans distinction des problématiques politiques et sécuritaires. Moi, c'est ça surtout qui me choque avec ce projet, c'est l'absence, l'ignorance de la problématique sécuritaire. Qu'est-ce que vous faites des groupes armés à Gaza, des roquettes voilà, qu'est-ce que vous faites de la séparation entre la Cisjordanie et Gaza quand deux gouvernements ne veulent pas se parler? Comment vous construisez une ligne de train entre la Cisjordanie et Gaza aujourd'hui qui traverserait le territoire israélien? Est-ce qu'Israël autoriserait ça? Même ça, à un moment donné, est-ce qu'Israël autoriserait ne serait-ce que la moitié de ce projet économique? Probablement pas.
C'est là que, Jean-Éric Brana, je ne comprends pas bien, finalement, comment les États-Unis présentent l'intérêt de ce volet économique. En quoi est-il censé être une étape vers la paix dans la région?
Mais vous l'avez dit en introduction, il s'agit de s'attaquer d'abord à autre chose que ce qui n'a pas marché jusqu'à maintenant. Or, puisque les Américains entendent dire qu'il y a des problèmes de pauvreté et d'argent dans la région, on s'attaque à ce problème-là. Ce qui correspond à la vision du monde de Donald Trump. La diplomatie n'a pas lieu de citer actuellement dans la politique extérieure des États-Unis. C'est le commercial qui prime. On est dans la diplomatie en réalité du début du XXe siècle. Des républicains, c'était prospérité et paix, ça va ensemble. Donc on s'arrangeait pour mettre un petit peu la paix dans des territoires très éloignés, et là je pense à ce moment-là à la Chine, bien sûr, pour pouvoir amener le commerce. Et c'est le commerce ensuite qui allait régenter tout, et à partir de là, ils pouvaient pousser des fleurs, même dans le désert. Donc on est exactement dans cette logique-là en terre de Palestine, puisque effectivement, si vous apportez la prospérité à des gens qui aujourd'hui sont dans la misère, on se dit bah, ils n'auront plus envie de faire la guerre, ils ont envie de s'occuper de leur commerce et donc de pouvoir parler à leurs voisins, même si les voisins actuellement sont déjà avec qui on ne parle pas. Ça nie quand même, et ça a été dit d'ailleurs par Mahmoud Abbas et tous les Palestiniens, ça nie l'histoire, ça nie les blessures, ça nie les difficultés inhérentes bien sûr à ces situations brouillées depuis des années et des années, comme si on pouvait tirer un trait dessus.
Et si on vous comprend bien, Elisabeth Marteux, en tout cas, ces 50 milliards n'arriveront pas tout seuls, en tout cas, à régler la situation économique des territoires palestiniens.
Non, c'est un petit pansement sur une plaie béante. Ça n'a pas de sens, en fait. Donc d'abord, il va falloir voir qui finance. Bon, effectivement, il trouvera des financements. Hein. Il ne peut pas sortir de cette conférence avec zéro. Donc il va probablement trouver un petit peu.
Alors oui, justement, sur les pays présents, on n'en a pas parlé, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Jordanie, le Maroc, le Qatar, le Sultanat d'Oman, ce sont des pays qui sont prêts, justement, à investir dans les territoires palestiniens.
Alors, sûrement pas la Jordanie, qui elle-même a ses gros problèmes économiques, ni l'Égypte, et je vois mal également les Marocains. Donc ça va être encore les pays du Golfe qui vont mettre la main au portefeuille, donc les Émiriens, les Saoudiens en priorité, qui vont encore financer, mais ils financent déjà pas mal l'UNRWA, par exemple, l'Office des réfugiés palestiniens. Donc ils donnent de l'argent. Ensuite, ça l'a été dit, c'est un projet sur 10 ans. Donc on a bien le temps de voir des promesses qui ne se réaliseront pas. Mmh. Vous voyez, ça ne mange pas de pain de promettre de l'argent aujourd'hui. Du reste, les Saoudiens l'ont déjà fait avec l'autorité palestinienne. Il y a déjà des millions qui sont promis régulièrement et qui n'arrivent pas à l'autorité palestinienne. Bon, faudra regarder ça aussi. Hein.
La suite de notre décryptage, alors, sur le volet économique du plan de paix américain pour le Proche-Orient, un volet qui met au moins les Palestiniens d'accord contre lui, Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza.
Il est très clair qu'il existe des tentatives de transformer le cas palestinien d'un dossier politique en dossier économique et de traiter la question palestinienne comme celle d'une société cherchant une vie économique.
Jean-Yves Brana, ce plan économique doit être géré par une banque internationale de développement. C'est quoi le message envoyé par les États-Unis en faisant ce choix-là ?
Encore une fois, c'est de ne pas être eux-mêmes les mains dans le cambouis. C'est bien évident. Donc, on a bien compris, hein, pour l'ensemble des zones de conflit et des zones difficiles, les Américains veulent se retirer. Et là, on est vraiment dans une logique moderne des États-Unis par rapport à ce qu'il y a pu avoir pendant les années 70, 80, 90, où les Américains allaient intervenir directement et se mouiller concrètement. Mais tout ça coûte fort cher. D'en rendre la grandeur à l'Amérique, Donald Trump insistait beaucoup que le contribuable américain payait beaucoup trop cher pour la sécurité extérieure et pour régler les problèmes du monde. Alors à chaque fois qu'il peut ramener de l'argent à la maison, il le fait. Et juste pour illustrer cela, pour bien qu'on comprenne jusqu'où cela va, vous voyez, il y a des problèmes en ce moment dans les détroits d'Ormuz, il y a des pétroliers qui passent et qui sont attaqués, et Donald Trump a dit il y a deux jours, mais c'est plus aux Américains de protéger le détroit d'Ormuz, et chaque pays va aller protéger ses propres pétroliers. Ça va jusque-là. Donc à chaque fois qu'on peut transférer effectivement les problèmes de dépenses sur place, ben on le fait et ça arrange tout le monde, en tout cas du point de vue américain.
Elisabeth Marteau, est-ce que c'est pas une façon aussi de contourner les autorités palestiniennes, les autorités des territoires palestiniens, en ne leur confiant pas justement cet argent ?
Bon, de toute façon, un plan d'investissement ne pouvait pas passer uniquement par l'autorité palestinienne. Il y a aussi la problématique Gazaoui, puis il y a l'investissement dans le secteur privé. Ça fait déjà des années que l'aide en Palestine ne passe pas uniquement par l'autorité palestinienne. Il y a une aide budgétaire directe à l'autorité palestinienne et une aide à la société civile. Donc ça fait quand même des années que les différents canaux sont utilisés. Mais c'est sûr qu'il y a une volonté de contourner, de marginaliser l'actuel leadership palestinien représenté par Mahmoud Abbas. Et là, Jared Kushner ne s'en cache pas, hein, il le dit clairement. De toute façon, il n'y a pas de partenaire pour la paix à Ramallah, surtout pas Abbas, qui n'est plus en mesure de diriger, qui est corrompu, qui est vieux. Bon, il a dit très clairement, il ne s'en cache pas. Donc, ils aimeraient très probablement un changement de leadership à Ramallah et un leadership qui soit beaucoup plus à même de discuter avec eux et plus complaisant.
Est-ce qu'il y a tout de même un point positif que vous retenez de cette conférence à Manama, à Bahreïn, qui pourrait faire avancer le conflit israélo-palestinien vers la paix, Jean-Yves Brana, pour conclure?
Je crois qu'on en parle, ce qui est déjà pas mal. Et même si c'est vrai, ça se fait dans la douleur depuis deux ans, c'est l'Arlésienne. Hein. On parle de ce deal du siècle, de ce plan de paix, on a tout entendu et toutes les hypothèses, effectivement. Nous, on les a beaucoup discutées en cours avec nos étudiants, tout ce qu'il pouvait y avoir, mais on en parle. Mmh. Et quand on parle de paix, c'est quand même mieux que quand on prépare la guerre. Donc, quelque part, on peut se dire qu'il y a quand même de ce côté-là un pas dans la bonne direction. Et je crois que l'idée d'avoir commencé par l'économique est certainement maladroit, mais on n'a pas les problèmes durs, en tout cas, sur la table aujourd'hui. Donc, moi, je ne pense pas, même si ça échoue, que ça va aboutir à quelque chose de catastrophique.
Elisabeth Marteau, un point positif aussi à cette réunion, quelque chose qui pourrait faire avancer justement la situation? Ou pour vous, finalement, ça ne sert à rien? Vous avez parlé de pansement sur une jambe de bois. Est-ce que vous reprendriez cette...
Plébéante. Non, moi, j'arrive pas à voir quelque chose de positif. Je cherche hein, et je réfléchis. Non, je ne vois pas. Je pense que ça ne va rien changer. Et un peu d'argent va arriver. On observe ça de toute façon depuis 30 ans et ça ne sert à rien puisque le problème de fond n'est pas réglé. Je pense qu'on a aujourd'hui assez de recul dans les mécanismes de résolution des conflits, de médiation pour savoir qu'on ne règle pas un conflit uniquement avec des mesures économiques. C'est ça, moi, que je regrette sur cette problématique, c'est qu'on oublie que c'est le conflit israélo-palestinien. Il y a un conflit dans cette région. Il n'y a pas simplement des gens qui souffrent et qui n'ont pas assez d'argent.
Merci beaucoup, Elisabeth Marteux, donc de l'Institut international d'études stratégiques. Merci, Jean-Ric Brana. Je rappelle le nom de votre ouvrage, Et s'il gagnait encore, chez VA Éditions. Merci à toute l'équipe de Décryptage. Éléonore Krenik, Charles Barré, Charles Mamère et Hélène Avril.